En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé, en partenariat avec la Société asiatique et l'Institut national des langues et civilisations orientales, un colloque intitulé « Voir et concevoir la couleur en Asie ». C'était le 11 et le 12 janvier 2013. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention de Jean-Pierre Mahé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Sa communication s'intitule « Couleur du sang et de la vendange dans l'hymnographie arménienne. »
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs et chers confrères, Mesdames et Messieurs, en arménien contemporain, l'adjectif « bosor », « rouge écarlate » n'apparaît guère dans la conversation courante. C'est un terme exclusivement poétique. En décrivant un soleil couchant, le poète Avedik Isaakian, qui est mort en 1957, dit « le ciel fumé, rougeoyant, bosor de flammes ». En évoquant la révolution d'octobre, le poète Yerichet Charens, mort en 1937, dit « Moscou se mit à ondoyer d'une houle écarlate, d'une houle éclatante, comme un drapeau écarlate. Drapeau écarlate, bosor. Si il avait écrit drapeau rouge, carmiche, cela aurait presque pris pour ses lecteurs une résonance administrative. Combien d'usines, de collectivités en tout genre étaient déjà à cette époque décorées de l'ordre du drapeau rouge. Bosor traduit une tonalité plus flamboyante et comme auréolée d'une sacralité mystérieuse. Tout se passe comme si l'étymologie de ce mot, qui est aujourd'hui à peu près oublié de la plupart des locuteurs, conserver néanmoins dans l'inconscient collectif la mémoire de ses origines religieuses. En effet, bosor est issu de l'interprétation d'un seul passage de la version arménienne d'Isaïe 63.1, ou pour prendre le contexte, 63.1 à 6, passage dont s'est délecté l'exégèse patristique. Je précise tout de suite que cette exégèse repose sur un contresens tout à fait indéfendable, mais comme vous le savez, et comme l'a noté Voltaire dans son discours sur les miracles, le premier miracle de la Bible est de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils disent, ou du moins littéralement. Donc, pour vous aider à suivre, on vous a distribué une feuille où vous allez voir les principaux textes. Donc, imaginons la scène d'une tragédie grecque, un valeureux héros sortant du champ de bataille accourt vers la cité pour annoncer lui-même sa victoire. Face à lui, un cœur d'habitants incrédule s'interroge sur cette présentation peu protocolaire, sur l'expression noble et farouche du vainqueur, sur le sang et la poussière qui souillent ses vêtements. Donc je traduis littéralement ce passage, évidemment pas d'après l'hébreu, mais d'après la version arménienne. Donc, qui est celui-là, demande le cœur, qui arrive d'Édom? La rougeur de ses vêtements vient de Bosor, avec un beau manteau et une forte puissance. Et le héros répond, « C'est moi qui proclame la justice et la sentence du salut. » Le cœur demande à nouveau, « Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges ? » tes habits comme ceux du fouleur au pressoir, ayant piétiné pleine cuve. » Le héros réplique « Seul, j'ai foulé au pressoir, et des païens, là c'est ce que dit l'Arménien, mais l'hébreu semble dire de mon peuple, nul n'était avec moi. Je les ai piétinés avec fureur, je les ai pressés avec colère, je les ai ravalés jusqu'à terre, et j'ai gâté tous mes habits. Car était arrivé sur eux le jour de la rétribution, et l'année du salut était enfin venue. J'ai regardé, nul n'était là pour m'aider. J'ai réfléchi, nul n'était là pour venir au secours. C'est mon bras qui les a sauvés, et ma fureur fut seule à tenir tête. Je les ai piétinés de ma colère, je les ai immolés dans ma fureur, je les ai ravalés jusqu'à terre. Concentrons-nous pour le moment sur le début du passage. Il est clair que Bosor, que j'ai écrit avec un B majuscule, y apparaît comme un toponyme. Et on sait qu'il s'agit en fait de la localité de Botsra, l'actuelle Bousseira, en Transjordanie, à quelques 30 kilomètres au sud-est de la mer Morte. Ce fut là, autrefois, le haut lieu des Édomites, qui étaient des ennemis du royaume de Juda, parce qu'ils s'étaient occasionnellement alliés à Nabucodonosor. Et le texte d'Isaïe dit simplement que la rougeur des vêtements du héros vient de Bosor, au pays d'Édom. Or, qu'est-ce qu'il y a de rouge à Bosor? On comprend par la suite du dialogue que c'est le sang des ennemis que le vainqueur a fouillé comme la vendange. Mais le terme lui-même, hein, l'étymologie hébraïque, semble plutôt renvoyer à un enclos, un parc à moutons, sans aucune connotation chromatique. Donc la question que je voudrais poser, c'est d'où vient la confusion qui, dans un énoncé grammatical parfaitement clair, a transformé un nom propre de lieu en adjectif de couleur. Alors, on a essayé d'expliquer ça en partant d'un texte patristique très important qui a été traduit en arménien très tôt, au 5e siècle, et qui oriente déjà dans cette direction. Il s'agit des catéchèses mystagogiques de Cyril, ou attribuées à Cyril de Jérusalem. Si l'on regarde la version grecque, vous avez le texte sous les yeux, on lit à propos de ce passage « Qui est celui-là qui, par dérision, porte des vêtements écarlates ?» En effet, l'hébreu « Bosor » peut s'interpréter dans ce sens. À vrai dire, on a fait la remarque que ça serait plutôt Édom qu'il faudrait rapprocher de la couleur rouge. Et on a supposé que dans un verset où apparaissent successivement deux noms propres, Édom et Bosor, Cyril s'est trompé. C'est-à-dire que pour interpréter ce texte, il avait sous les yeux un lexique bilingue, ce qu'on appelle les onomastica sacra, et il a sur Bosor, il y avait écrit c'est rouge. Et sur l'autre, il y avait une autre définition, sur le... sur Édom, il y avait écrit « rouge », et sur Bosor, il y avait une autre explication, et il a appliqué à Bosor ce qui était dit d'Édom. Alors, cette interprétation, cette explication, irait bien si la version arménienne des catéchèses était exactement superposable à l'original grec. Mais cela n'est pas le cas. Et donc, vous avez, je vous ai mis aussi, la version arménienne, qui est celui-là qui arrive d'Edom et dont les vêtements de couleur sombre proviennent de Bosor. Qui est celui-là qui, à cause des outrages, vient revêtu de rouge. Car Bosor, traduit de l'idiome hébraïque, se dit sombre en notre langue. Bien, comme on le voit, l'interprète arménien n'établit pas de lien direct entre la couleur rouge et la signification de Bosor en hébreu. D'après lui, le sens du mot Bosor, c'est mout, qui, en général, n'est pas interprété par les dictionnaires, enfin, qui n'est jamais, je veux dire, pas seulement en général, mais qui n'est jamais donné dans les dictionnaires arméniens comme autre chose que sombre. Pas, sûrement pas rouge-noir ou rouge-sombre, il n'y a pas, en général, d'allusion au rouge. Et d'ailleurs, il se trouve que on possède un certain nombre de lexiques bilingues arménien-hébreu composés ou de glossaires bilingues arménien-hébreu ou hébreu-arménien qui ont été composés spécialement à l'usage des exégètes pour leur permettre de déchiffrer les symboles qui se trouvent dans les noms sacrés de la Bible. Ces glossaires ont été édités, comme je l'indique, sous le mot onomastica sacra, par Michael Stone. Eh bien, on voit que dans ces onomastica sacra, les termes sont interprétés correctement, c'est-à-dire Edom est noté rouge ou terrestre, karmir kam yerkrayin. Donc, très probablement, il fait allusion à un mot qui veut dire le sang, qui a une forme d'âme, ou encore à Adama, la terre rouge. Quant à Bosor, il est traduit par fortification, probablement parce qu'en parlant du sens d'enclos, parc à moutons, il comprend aussi une enceinte qui serait éventuellement fortifiée. Donc, je pense qu'il est insuffisant d'essayer d'expliquer l'évolution sémantique de Bosor en arménien par un accident de lecture, c'est-à-dire par la confusion entre deux scolies qui prétendent expliquer des mots hébreux et qui n'ont pas été bien comprises. Je pense qu'en réalité, il faut supposer une sorte de radicalisation de l'exégèse j'allais dire messianique du passage d'Isaïe. Donc, commençons par donner quelques renseignements tout à fait élémentaires sur la date possible de ce passage. En général, cette partie-là du livre d'Isaïe, donc qui est postérieure, je vous ai mis la chronologie du livre, telle qu'elle est couramment établie, en principe, c'est quelque chose qui est, puisque c'est après le chapitre 55, c'est quelque chose qui fait partie de la troisième partie du livre d'Isaïe, et on pense que c'est quelque chose qui se situe après le retour d'exil, donc qui, après 538, et qui pourrait dater jusqu'à l'époque de Néhémie, au milieu du 5e siècle. Alors, bien entendu, c'était un peu risqué de ma part d'aller chercher une présentation comme s'il s'agissait d'une scène de tragédie grecque, mais c'est certainement quelque chose qui est dialogué, Et si on pense à la tragédie grecque, eh bien, simplement, rappelons-nous que les tragédies d'Eschyle, ça fait à peu près entre 490 et 456. Donc, ça pourrait être à peu près contemporain de ce texte d'Isaïe. D'après les renseignements que j'ai pu prendre, l'événement historique auquel se rapporte le texte biblique n'est pas connu dans le détail. Ce qui est très probable, c'est que les Hébreux attendaient depuis longtemps le châtiment des Édomites. Ils leur reprochaient, au temps de Joachim, fils de Josias, de s'être alliés aux bandes de Chaldéens, d'Ammonites, de Moabites, qui harcelaient le royaume de Juda, comme cela nous est raconté dans le livre des Rois, 2 Rois 24:2. Et en 597, quand Nabucodonosor marcha sur Jérusalem, eh bien, les Édomites profitèrent de la défaite du royaume pour annexer tout le Négeb. Et donc, on peut penser que la rancœur à l'égard des Dômes était une rancœur assez ancienne et bien recuite, et que nécessairement l'heure de la vengeance devait sonner au retour de l'exil en 538. Mais on ne sait pas, du moins je ne sais pas, au juste, ni quand, ni par qui cette vengeance fut accomplie. Le vengeur qui parle dans ce passage se présente comme un juif, mais il affirme curieusement que personne, enfin d'après le texte hébreu, que personne de son peuple n'était avec lui, et les Septante en sont si surpris qu'ils disent au contraire personne parmi les païens, parmi les nations, et c'est cette leçon qui est passée en arménien. Peu importe au fond l'identité de cet audacieux vengeur. Peu importe son identité, parce que le prophète ne veut voir en lui que le champion envoyé par le Seigneur contre tous les ennemis de son peuple. Et l'événement que nous aurions aimé voir daté, circonstancié, se change subrepticement en type intemporel d'une portée générale. L'obscurité même du contexte signale son sens caché, sa résonance mystérieuse. Alors ici, nous allons être obligés, évidemment, d'aborder des questions un peu techniques d'exégèse biblique. Dès les époques les plus hautes, l'exégèse biblique, qui était probablement sur ce point héritière de traditions pré-chrétiennes existant dans le judaïsme, pose en principe que toute contradiction apparente de l'Ancien Testament constitue un mystère, hein, dont la clé ne peut être que le Messie. Et évidemment, pour les chrétiens, le Messie, c'est le Christ. Alors, on a ainsi des remarques qui sont révélatrices dans ce sens. Par exemple, dans le traité sur les bénédictions d'Isaac et de Jacob, Hippolyte de Rome décrit, je vous ai mis le texte, décrit sa méthode exégétique en formulant ce vœu que le Verbe lui-même vienne nous assister en se faisant l'interprète de ses propres mystères. Autrement dit, chaque fois qu'il y a un passage obscur ou qui paraît incohérent dans l'Écriture, il faut chercher quel passage de la vie du Christ va permettre d'expliquer ce texte et de l'interpréter comme une prophétie se rapportant au Messie. Le rôle de l'exégèse est de nous faire toucher du doigt les inconséquences de l'Écriture sainte prise à la lettre, pour mieux nous persuader que seul le Christ, donc Verbe incarné, peut combler les failles et aplanir, les aspérités du discours. Alors, nous avons une espèce de cas limite en la matière, qui est un certain écrit sur le Christ et les Églises, qui a été attribué par la tradition à Barsabée le Juste. Barsabé le Juste, alors ce traité n'existe plus aujourd'hui que en traduction géorgienne. Je vous ai mis la référence au verso de la page. Alors, Barsabé le Juste est une figure un peu difficile à cerner, mais probablement historique, puisque dans les Actes des Apôtres 1:23, on apprend que Barsabé était candidat au titre d'apôtre au moment où on a voté pour remplacer Judas, et par la suite, la tradition dit qu'il devint le troisième évêque de la ville sainte, un des successeurs de Jacques, le frère du Seigneur. Alors, Barsabé, dans cet écrit qui a été transmis en géorgien, prétend commenter la Genèse. Et il relève dans la Genèse ce qu'il appelle 28 mystères. C'est-à-dire qu'il fait une lecture linéaire de la Genèse, et il y a 28 passages où il lui semble qu'il y a des contradictions, et il s'applique à chaque fois à démontrer que le sens caché de ces contradictions, c'est telle ou telle circonstance de la vie du Christ. Alors, c'est probablement ce parti pris herméneutique qui explique le glissement sémantique transformant le toponyme de Botsra en adjectif de couleur exprimant le rouge, couleur du sang, ou couleur des vengeances. Dans un premier temps, donc, on oublie complètement les circonstances historiques dans lesquelles les Hébreux, au retour de l'exil, avaient tiré vengeance des Édomites et massacré les habitants de Botsra, et on ne retient que les mots de l'oracle suggérant une signification messianique. « C'est moi qui proclame la justice et la sentence du salut, c'est mon bras qui les a sauvés. » Alors, de cette façon, puisqu'on croit avoir des indices de signification messianique, au lieu d'évoquer une belle bataille ou une glorieuse bataille du passé, on se projette vers l'avenir. Et dans ces conditions, le nom géographique de Botsra n'a plus aucune importance. Ce vocable ne fait plus que expliquer la rougeur particulière du vêtement du vainqueur, comme nous dirions aujourd'hui rouge bordeaux ou rouge magenta. On saurait naturellement exclure que certains exégètes juifs de la période du Second Temple aient soutenu l'interprétation messianique de ce passage, bien avant la naissance de l'exégèse chrétienne. Mais dans ce cas, le sang qui teignait les vêtements du vainqueur devait être celui des vendanges, celui des ennemis, je veux dire, qui ont été victimes du jour de la rétribution et que le vainqueur avait foulé comme la vendange à pleine cuve dans sa colère et dans son courroux. Mais à partir du moment où ce sont des chrétiens qui reprennent cette exégèse messianique, comme ils identifient le Messie à Jésus de Nazareth, qui a été crucifié sur le Golgotha, cela inverse la perspective. C'est-à-dire que, d'abord, le héros qui a été crucifié, s'il a triomphé d'ennemis, ce ne sont pas d'ennemis humains qu'il a triomphé, mais d'ennemis spirituels. Il ne peut pas être souillé du sang d'autrui, mais seulement du sien propre. Le dialogue qui est mis en scène par le prophète ne peut plus, dans cette perspective, se situer sur terre, mais il se situe nécessairement dans l'autre monde, soit dans les enfers, soit dans les hauteurs du ciel. Alors, dans la tradition arménienne, ce retournement exégétique qui entraîne le changement de sens de Bossor, du toponyme à l'adjectif de couleur, n'est pas attesté avant la renaissance culturelle des 9e-10e siècles. En effet, on s'attendrait à rencontrer Bossor, rouge comme le sang, dans un certain passage de l'histoire d'Agathange, qui est un pseudépigraphe du milieu du 5e siècle, racontant la christianisation du pays au début du siècle précédent. Alors, dans ce texte, il y a une vision de Saint Grégoire l'Illuminateur qui déclare avoir rencontré donc le Fils unique de Dieu, qui lui montre l'emplacement où doivent se tenir les chapelles des différents saints martyrs qui ont contribué à la christianisation du pays. Eh bien, ces martyrs ont été décapités auprès d'un pressoir, justement, et à cet endroit, dans la vision, l'illuminateur voit apparaître le socle de les socles des futures chapelles des saints. Et il est écrit, ces socles étaient rouges, couleur de sang. Dans ce contexte, au lieu d'employer le mot bossor, qui paraît très normal, puisque bossor veut dire littéralement rouge sang, il dit simplement carmir, qui est le mot générique du rouge. C'est probablement parce que le terme spécialisé, bossor, n'existe pas encore durant la période préarabe. Le premier témoin du vocable, c'est Grégoire de Narek, qui est un mystique et un théologien de l'an 1000. À la demande d'Anania, l'abbé de son monastère, il a composé des hymnes et des odes qui étaient destinés à amplifier la synaxe eucharistique et les heures canoniales des grandes fêtes de l'année liturgique. Bien, le texte d'Isaïe y figure deux fois, à propos de la passion et à propos de la résurrection. Tout se passe comme si, dans l'imagination du poète arménien, le Christ remontait d'un seul mouvement des enfers jusqu'à la cime du ciel. Alors, comme Isaïe, Grégoire laisse la parole au vainqueur pour exploser lui-même sa victoire dans l'ode sur la résurrection. Pour le jour du Seigneur, jour clair et sans achèvement, seul connu du Seigneur, je monte en sentinelle gagnant mon observatoire vers le sud, allant revêtu d'un manteau de couleur pourpre, bossoraino guin, couleur du bain de sang qui sourd de mon côté, de pleine perfection ma mère m'a couronné, ma mère qui me suivit au jour et à l'heure dite. Ce jour-là, je fus mis au tombeau pour 3 jours, je fus en enfer face au point du pillard, point de violence et force du puissant, puissante force et renfort des légions. Le jour du Seigneur, on le comprend facilement, c'est le dimanche de Pâques ou de la résurrection, qui, dans la mentalité ancienne, marque la fin d'une grande semaine cosmique et l'avènement d'une ère nouvelle, pendant laquelle la création sera entièrement, ou bien pendant laquelle la création sera entièrement transformée. Et ce sont ces changements que celui qui parle guette, comme il le dit, dans son observatoire du sud. Alors, cette métaphore curieuse désigne la croix, parce que la croix, c'est un lieu plus élevé, il a été élevé sur la croix. Et le sud, c'est l'endroit d'où vient la lumière, c'est-à-dire d'où vient l'embellie. En fait, dans nombre de textes arméniens, au lieu d'opposer les points cardinaux 4 par 4, on les oppose 2 par 2. Vous avez d'un côté l'est-sud, qui représente l'endroit d'où vient la lumière, et de l'autre côté, vous avez le ouest-nord, qui est l'endroit des ténèbres. Pas ? Et donc, d'une certaine façon, sud veut dire la région d'où vient la chaleur, la lumière, mais ça pourrait aussi bien désigner l'Est par métonymie, puisque ça fait partie de la même zone lumineuse. Donc, en prévision du royaume futur qui s'annonce, donc celui qui parle est revêtu de pourpre, il est couronné comme le fiancé messianique du Cantique des Cantiques, mais évidemment, sa couronne est tressée d'épines et sa pourpre est teintée de son propre sang. Alors, ce sang qui teinte ses vêtements, dans un premier temps, je parle toujours dans cette imagination poétique, hein, c'est un excellent passeport qui permet au Christ de camoufler son immortalité pour tromper les gardiens des enfers et pour se faire admettre au royaume des morts. Hein. Et une fois qu'il est au royaume des morts, naturellement, il casse tout. Il s'empare des dépouilles du pillard, c'est-à-dire de toutes les âmes défuntes qui sont retenues dans les ténèbres infernales. Évidemment, ça n'est que la première phase de l'opération. Pour la seconde, cet emblème sanglant, c'est-à-dire son manteau teinté de sang, qui facilitait la descente en enfer, risque d'entraver sa remontée hein, vers les hauteurs du ciel. En effet, depuis que les chérubins qui brandissent la flamme du glaive tournoyant, d'après Genèse 3:23, barrent l'accès du jardin d'Éden, les anges douaniers, les télonaï qui gardent les portes des voûtes célestes, ont reçu consigne de ne laisser passer aucun mortel. Et c'est pourquoi ils interpellent le ressuscité dans son ascension et ils le soumettent à un vigoureux interrogatoire. Je vous ai mis le texte de cette ode sur l'ascension. Dans une chair humaine colorée par le sang, les anges vigilants virent le Seigneur incorporel. L'un à l'autre, ils se demandaient « Qui donc cela peut-il bien être ? Qui est donc celui-là qui arrive des dômes, vêtu d'écarlate et de pourpre, garnat zorz ibosra, paré de sa beauté, orné d'une lumière divine ?» La lumière, c'est-à-dire le Christ, informa les anges de feu par ces mots. J'ai repoussé de ma vigoureuse puissance celui que la justice d'ici-bas prenait pour le plus fort. Les couleurs du manteau leur paraissaient terrestres. Pour dissiper le doute, ils demandent encore « Qu'est-ce que ton vêtement rouge, semblable à la vendange emplissant le pressoir ?»« C'est, dit-il, le pressoir que j'ai foulé en croix. Sous mes pieds, j'ai foulé l'ennemi de la vie. Sur la terre a coulé le péché de son fiel. » Mais nouvelle question des habitants du ciel, « Seigneur, qu'est-ce que ces blessures à tes mains ?» Alors, les anges, à vrai dire, suivent de si près, hein, dans leur première question, le texte d'Isaïe, qu'on pourrait, on pourrait contester la traduction que je viens de vous donner. C'est-à-dire que les mots que j'ai mis en arménien, Garmat Sorts Ibosra, plutôt, on pourrait se demander s'il faut vraiment traduire vêtu d'écarlate et de pourpre, ou bien s'il faut traduire vêtu de l'écarlate de Botsra, en mettant un B majuscule comme s'il s'agissait le nom propre, puisque ça reprend littéralement le texte d'Isaïe que j'ai cité. Bien, la raison pour laquelle je crois qu'il faut traduire autrement, c'est parce que dans les œuvres de Grégoire de Narek, on a plusieurs exemples qui ne donnent absolument aucun doute que pour Grégoire de Narek, Bosra est un adjectif de couleur et non pas un nom propre. Dans son livre de Lamentation, par exemple, il dit « Invoquerai-je les oiseaux du ciel, ce sont eux qu'on appelle sur les restes couleur de sang, bossor, hein, des victimes immolées. Hein. » Il évoque encore un passage bien connu du livre de l'Exode, où, pour casser le moral des Égyptiens, Dieu conseille à Moïse de changer ou de montrer qu'il a le pouvoir de changer l'eau du Nil en sang. Alors Moïse puise de l'eau du Nil et il renverse ensuite l'eau du Nil par terre et le sol, cette eau se change en sang. Hein, le sol est teinté de rouge. Et donc Grégoire écrit « Tu figeas soudain dans le sol une tache écarlate, bosoraïne, d'eau puisée dans le fleuve. Hein, » Donc bosoraïne veut bien dire écarlate. Et puisque Bossor est un adjectif tout comme tous les autres, eh bien, il a des composés. Et par exemple, je vous en ai mis quelques-uns, Bossora Bourch, Bossora Kailak, d'un jaillissement écarlate, Bossora Kailak, en goutte écarlate, Bossora Type, marqué de rouge écarlate. Donc, ces évolutions grammaticales montrent que Bossor est devenu, pour le poète du Xe siècle, un adjectif qualificatif comme tous les autres, en dépit de son étymologie. Alors, je passerai très rapidement sur les époques ultérieures. L'hymnographie ultérieure, c'est-à-dire Nersès le Gracieux, ou encore le recueil anonyme des heures canoniales, mais Nersès le Gracieux y a également participé, donc à la fin du XIIe siècle, reste strictement fidèle à l'exemple de Grégoire de Narek. Bossora, d'ailleurs, toujours en rapport avec l'oracle d'Isaïe, sont appliqués à l'ascension du Christ et signifient rouge. Et le thème de l'ascension est largement popularisé à la même époque par un sermon d'un autre auteur qui est évêque de Tars, Nersès de Lampron, qui transforme en une véritable dramaturgie le dialogue entre les anges et le Sauveur remontant à travers les sphères célestes. Et le prédicateur utilise le composé bosoratip, donc marqué de rouge écarlate. Il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour voir émerger en Arménie une littérature profane tout à fait émancipée des genres ecclésiastiques. Pourtant, même à cette époque, les œuvres de Saint Grégoire de Narek ont encore un écho considérable dans la société arménienne. On chante fréquemment ses odes, qui passent pour les plus grands chefs-d'œuvre musicaux. Son livre de lamentation est dans toutes les familles comme une sorte de recours souverain contre tous les maux de l'âme et du corps. Hein, il y a des gens qui sont spécialisés dans la lecture du Narek sur la tête des malades. Hein. C'est naturellement de cette source-là que dérive l'usage poétique de l'adjectif « bossor » qu'on applique désormais à toutes sortes d'objets. L'étymologie du vocable, son lien avec la passion, la résurrection, l'ascension, semble complètement oublié. Certes, « bossor » désigne un rouge vif, couleur de sang et de vendange, mais plus encore qu'une teinte précise, il reflète une visée sacrificielle. Ce n'est pas un pigment matériel, c'est une couleur mythologique.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-Pierre Mahé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, intitulée « Couleur du sang et de la vendange dans l'hymnographie arménienne ». C'était dans le cadre du colloque de l'Académie des inscriptions et belles-lettres « Voir et concevoir la couleur en Asie » qui s'est déroulé en janvier 2013. Retrouvez l'ensemble des communications de ce colloque sur Canal Académie. Thank you.